demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 17 août, nous viendrons sur la rupture d'une canalisation survenue quai Sarail à l'angle du pont Lafayette. Les travaux de réparation ont commencé, mais ils vont durer longtemps. Plusieurs forêts du nord du département du Rhône sont interdites d'accès aux promeneurs comme aux véhicules en raison du risque d'incendie. C'est parti pour les vendanges dans le Beaujolais. La date officielle, c'est aujourd'hui. Mais la cueillette aura lieu essentiellement à partir de lundi 22 août dans le vignoble rhodanien. Le décès de Colette Moreau, elle fut adjointe au maire de Lyon sous Francisque Collomb. Elle était en charge de la sécurité. Elle s'est éteinte à 83 ans. L'histoire des pieds noirs est une histoire de mémoire blessée et de silence. C'est en partant de ce constat que Nicole Giudicelli a lancé le podcast « Et de nous, qui se souviendra ?» Des histoires d'exil, mais aussi de courage et de résilience. Nicole Giudicelli sera notre invitée dans ce quart d'heure lyonnais.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après une rupture de canalisation survenue quai Sarail à hauteur du pont et du cours Lafayette, les travaux de réparation ont commencé, mais le chantier va sans doute perturber la circulation automobile durant plusieurs semaines. Le pont Lafayette sera ouvert seulement d'ici à la fin de la semaine, mais uniquement sur une seule voie de circulation entre la Presqu'île et le quai aux Gagneurs. À noter aussi la fermeture pure et simple du quai Sarail en amont du pont. Il faudra patienter 2 mois pour une réouverture totale de l'axe. Les services de l'eau du Grand Lyon vont d'abord réparer la canalisation qui a été endommagée. Le service de la voirie de la métropole de Lyon prendra ensuite le relais. L'incident a pu fragiliser également les alignements de platanes. Le service des arbres va devoir aussi intervenir. Côté TCL, les lignes C13 et C3 sont impactées par cet incident. Elles ne peuvent plus emprunter le pont Lafayette. La ligne C3 ne circule qu'entre Vaux-la-Grapinière et La Part-Dieu, et cela dans les deux sens. Elle ne dessert plus les Terreaux et la gare Saint-Paul. La ligne C13 circule en 2 parties, de Grange-Blanche à Part-Dieu, puis de la mairie du 1er à Montessuie. L'interruption se fait dans les deux sens. La reprise de la circulation pourrait intervenir dimanche, lorsque le pont sera rouvert au trafic. Face au risque d'incendie particulièrement élevé sur un arrêté préfectoral, plusieurs forêts du nord du département du Rhône sont interdites d'accès aux promeneurs comme aux véhicules. Il s'agit des forêts de la Cantinière à Chambostalière, de la Pyramide à la Mure-sur-Azergue et les Landes du Beaujolais sur les hauteurs de Quincy-en-Beaujolais et Marchand. Les pluies de ce week-end n'ont pas suffi à améliorer la situation sur le front de la sécheresse. Le préfet a décidé donc de prolonger la mesure jusqu'au 4 septembre inclus. L'usage et le tir de feux d'artifice ainsi que les lâchers de lanternes volantes reste également interdit dans le Rhône jusqu'au 4 septembre.
Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
Les vendanges commencent ce mercredi dans le Beaujolais. C'est la 2e récolte la plus précoce dans le Beaujolais depuis 1992. En 2003, lors de la première année de canicule, les vendanges avaient débuté le 15 août. L'Inter-Beaujolais précise que chaque vigneron choisit de débuter ses vendanges lorsque, selon lui, ses raisins ont atteint leur apogée en fonction de l'altitude et de l'exposition de ses vignes et de sa propre philosophie. Les vagues successives de chaleur et de soleil, couplées à la sécheresse, ont rapidement fait mûrir le fruit, mais elles expliquent aussi une maturation du raisin très hétérogène. La cueillette démarrera essentiellement lundi prochain, le 22 août, dans le vignoble rhodanien. Quelques 25 000 vendangeurs vont s'activer entre les cèpes pendant environ 1 mois. Ces vendanges précoces promettent un millésime rare et exquis, selon l'interprofession. La profession s'attend malgré tout à un rendement inférieur d'environ 23% par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années. Le décès de Colette Moreau, elle fut adjointe au maire de Lyon sous Francisque Collomb. Elle était en charge de la sécurité. Après l'élection de Michel Noir à la mairie de Lyon en 89, elle allait collaborer au sein des services de l'OPAC du Rhône. Elle s'occupait jusqu'à ces dernières années du service de portage des repas à domicile pour les aînés dans le 4e arrondissement. Colette Moreau s'est éteinte à 83 ans.
Lyon demain, écoutez ma différence.
Bonjour Nicole Giudicelli.
Bonjour Gérald de Bouchon.
Vous avez décidé de lancer un podcast intitulé « Et de nous, qui se souviendra ? Nous, qui sont-ils ?»
Ce sont les pieds noirs qui ont été rapatriés il y a 60 ans en France, en métropole, après avoir vécu leur jeunesse ou leur enfance en Algérie et après avoir laissé leur maison, leurs aïeux, leur tombe, leur vie en Algérie, et au moment de l'indépendance de ce pays en 1962.
L'histoire des pieds noirs reste cachée, taboue, encore aujourd'hui en 2022 ?
Elle n'est pas véritablement cachée ni taboue, mais elle est entourée de silences qui perdurent encore parce que même au sein des familles, il est encore difficile d'en parler. Moi, j'ai pu le vérifier avec mes témoins. Souvent, ce sont des personnes entre 65 ans et 80 ans qui ont relativement peu parlé au sein de leur famille pour ne pas gêner l'intégration de leurs enfants, pour ne pas être mal compris, pour ne pas être stigmatisé, pour se protéger donc, et puis aussi pour ne pas réveiller les douleurs, parce que ça reste une histoire dramatique et douloureuse, l'histoire des pieds noirs.
Alors, libérer la parole, on l'a bien compris à travers ce podcast, mais que raconte-t-il ou que raconte-t-elle dans ce podcast ?
Il raconte quelques éléments de ce qu'était la vie en Algérie, ou du moins ce qu'ils en ont perçu à l'âge où ils ont vécu cette histoire. Alors c'est très varié selon les différents témoins qui avaient des âges très différents. Il raconte comment la guerre s'est initiée. Il raconte auparavant ce qu'ils faisaient, quelle était l'activité professionnelle de leurs parents. Et c'est là qu'on voit que très souvent leurs parents étaient des gens de conditions très modestes, qui descendaient d'ailleurs, qui s'étaient installés en Algérie souvent pour fuir la misère des pays méditerranéens ou pour fuir les misères économiques, politiques, sociales des pays méditerranéens ou des régions françaises. Et il raconte aussi comment la guerre s'est immiscée dans leur vie jusqu'au moment où leurs parents ont décidé de partir parce que ça n'était plus tenable de rester en Algérie sous peine de mourir, d'être enlevé ou de subir des exactions. Donc ils n'ont pas eu le choix et ils ont dû quitter ce pays qu'ils aimaient et auquel ils étaient très attachés, comme on est attaché au pays de notre enfance, en fait, et de là où la famille a toujours vécu, en fait.
Parmi les premiers témoignages, il y a ceux de Marie-Jeanne, Anne-Lise, Michel. Elle raconte l'exode aussi, hein, puis la reconstruction derrière.
Oui, c'est très important. Oui, ça ne porte pas que sur leur période de vie en Algérie, qui est la plupart du temps très courte. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus vécu en France de métropole qu'en France en Algérie au moment où l'Algérie était composée de départements français. Donc ça n'est qu'un point de départ, l'Algérie. Ça n'est qu'un point de départ à une trajectoire de vie dans laquelle ils ont vécu l'exode, l'exil, les difficultés d'une intégration et puis comment se reconstruire dans un pays qui ne veut pas de vous, qui ne vous accueille pas et comment se reconstruire tout seul en fait. Donc ce sont des gens qui ont un parcours de résilience, qui se sont battus seuls et qui se sont bien intégrés parce qu'ils avaient encore l'âge, ils étaient jeunes, pour pouvoir combattre et pour pouvoir lutter, contrairement à leurs parents ou à leurs grands-parents qui ne se sont jamais véritablement remis de cette histoire en fait.
Car même dans les familles, on en parle assez peu finalement de cette histoire des pieds noirs.
Oui, c'est une histoire qui est entourée de silence, de non-dits, parce que les enfants eux-mêmes qui ont dû s'intégrer et leurs parents ne voulaient pas les encombrer de cette histoire. D'abord, leurs parents voulaient tourner la page, ils ne voulaient pas rester dans cette douleur, ils ne voulaient pas encombrer leurs enfants de cette histoire. Ça reste une histoire difficile à raconter encore aujourd'hui. J'ai une de mes témoins qui s'appelle France et qui m'a dit, bon, qui est une femme qui n'a pas vécu la guerre de l'Algérie, qui a plutôt vécu une Algérie heureuse, mais qui me dit « ça fait 60 ans que dans ma famille, on ne me pose pas de questions ». Marie-Jeanne, toutes ces femmes qui sont rentrées jeunes, qui se sont mariées en France, le mariage ne les a pas aidées à parler de cette histoire. En fait, la plupart du temps, leur identité, leur origine pieds noirs n'était pas invitée à table et surtout pas dans les familles de leur mari. Donc ce sont des femmes qui pendant très longtemps se sont tues. Les hommes c'est pour d'autres raisons, mais pour les femmes c'est parce qu'une fois qu'elles sont mariées, Michel le dit très exactement dans son épisode, le mariage tue toutes les identités. On est heureux, on élève des enfants et pour la plupart d'entre elles, ce n'est qu'en vieillissant, soit au moment d'un divorce, soit au moment de la retraite, qu'elles se sont penchées à nouveau sur cette histoire la plupart du temps en écrivant pour laisser des écrits à leurs petits-enfants, parce qu'elles ne veulent pas que leurs petits-enfants se fassent des idées fausses et des idées préconçues et des a priori sur cette histoire. Donc la plupart du temps, elles écrivent pour laisser des traces.
Il y a beaucoup d'ignorance également autour de cette histoire des pieds noirs dans l'opinion publique. Hein. Ces pieds noirs qu'on assimile souvent aux colons, en fait.
Oui, ça, c'est vraiment terrible de constater qu'au bout de 60 ans, l'ignorance, la méconnaissance perdurent. Parce que je crois qu'on a mis cette histoire entre parenthèses. Elle n'a pas été abordée ni accueillie dans la société française. Ça donne que 60 ans après, on est toujours dans l'ignorance. Elle n'a pas non plus été enseignée à l'école, dans les lycées. Donc, c'est une histoire pour laquelle on fait encore beaucoup d'amalgame. L'amalgame, on amalgame l'ensemble des pieds noirs à des gros colons, ce qui est une réalité sociologique entièrement fausse. La plupart des pieds noirs étaient des gens d'origine modeste et ils le sont restés de génération en génération. C'est ce que dit Henri dans son témoignage. Il dit « Moi, ce que je regrette, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas eu l'occasion de grandir alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Ce sont des gens qui travaillaient tout le temps hein, et ils travaillaient dans des conditions souvent difficiles. Certains de mes témoins étaient des petits employés dans les domaine de colons. Donc, ils vivaient eux-mêmes le grand colonat, ce grand colonat qui n'a pas souhaité de réforme en Algérie. Et la plupart des pieds noirs étaient des gens d'origine modeste qui, au même titre, a été dans une relation souvent de fraternité avec les musulmans. Il y avait une entente entre les pieds noirs et les musulmans. Et aujourd'hui, l'image que l'on projette du système colonial, c'est d'un côté les colons qui étaient des exploiteurs et d'un côté les Algériens qui étaient des gens qui voulaient libérer leur pays. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement juste.
Merci Nicole Giudicelli de nous avoir d'avoir témoigné sur cette histoire des pieds noirs. Et puis on vous rappelle votre podcast, car le mieux c'est encore d'aller écouter ces témoignages et de nous qui se souviendra. On trouve ça sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Nicole.
Merci Gérald Bouchon et à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le classement de Shanghai, comparant toutes les universités du monde, a été publié. Il faut aller au-delà de la 200e place pour voir une université de Lyon apparaître dans ce classement. C'est la très prestigieuse université d'Harvard qui s'empare de la première place. Paris-Saclay Université se classe 16e. L'université Claude Bernard Lyon 1 se place entre la 200e et la 300e place, comme les années précédentes. Lyon 1 enregistre cependant un bon classement dans les matières scientifiques, avec des top 100, notamment en mathématiques et physique. L'école normale supérieure se situe, elle, entre la 301e et la 400e place des meilleures universités du monde. Pas de traces, en revanche, de Lyon 2 et Lyon 3 dans le top 1000. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.